Bienvenue sur la nouvelle émission, la mission libre éducation nouvelle des CMEA, dans un tout nouveau studio. Alors, comme c'est une première, on va vous demander d'être indulgent sur les fautes techniques et sur les défauts d'animation. Vous pouvez, si vous êtes allé sur le site, vous savez que vous pouvez interagir, vous pouvez, si vous en avez envie, besoin, réagir, poser une question, interpeller un invité. Pour celles et ceux qui ne seraient pas allés sur la page d'accueil, je vais dire une fois là où se trouve le pad et personne ne le retiendra. Ça se trouve sur pad.cmea.org/p/WRLEN. C'est une façon de s'assurer que personne ne sera dessus. Donc voilà, vous pouvez interagir dessus, vous pouvez donner vos envies, vos besoins. Vous aurez noté aussi qu'on n'a pas de titre à cette émission. Pour l'instant, elle s'appelle l'émission de la mission libre éducation nouvelle. Voilà, si vous en proposez un, éventuellement on le prendra. On est ensemble pour environ une petite heure avec un programme qu'on espère riche et passionnant. Ça, c'est juste pour mettre la pression aux invités, parce que ça ne dépendra pas de nous. Rapidement le programme, un petit échange rapide avec Jean-Luc Cazaillon qui se présentera tout à l'heure et qui nous expliquera ce qu'est la mission libre éducation nouvelle au sein des CMEA. On s'entretiendra après avec François Audirac qui se présentera lui aussi. On va parler un peu technique et histoire de cette web radio, et en même temps on voyagera en Belgique, au Sénégal, à La Réunion, à Bourges. Après cette explication, cette histoire de la Studio Box CMEA, on a le plaisir d'accueillir un petit bout de la Framatime, ceux qui veulent changer le monde un octet à la fois, c'est ça, hein, qui échangeront avec Jean-Luc autour du thème Framasoft et les CMEA. Pourquoi faire, comment on s'est rencontrés, à quoi ça peut bien servir. Et puis pour terminer, on retournera à la Réunion pour découvrir avec Dominique Leperlier ce qu'est le Bertel. Et j'en dis pas plus pour le moment. Voilà, les présentations sont faites. Si tout le monde est bien installé, et on va pouvoir commencer. Donc le premier sujet, un échange avec Jean-Luc Cazaillon. Déjà, qui es-tu?
Ben, je suis actuellement directeur général des CMEA, dans un parcours professionnel où j'ai d'abord commencé comme enseignant et puis ensuite exercé des responsabilités dans la direction des CMEA de Normandie, Haute-Normandie à l'époque. Voilà mon parcours professionnel.
Voilà, donc si on t'a invité, c'est pas seulement parce que t'es le chef, c'est aussi parce qu'avec Jean-Baptiste Cléricot, t'es le référent de la mission Libre Éducation Nouvelle, hein, que j'ai la chance, moi, de mon côté, de piloter. Mais est-ce que tu peux rapidement nous en dire plus pour éclairer peut-être le pourquoi de la web radio, pourquoi Framasoft et puis tout ce qui va suivre.
Mais d'abord, peut-être pour éclairer le fait qu'un mouvement comme les CMEA s'occupe du libre et que cette mission, elle s'appelle Libre et Éducation Nouvelle, parce que je pense que, enfin nous pensons, on a quelques-uns à le porter, qu'il y a des enjeux pour un mouvement comme le nôtre, et y compris au regard des principes et des valeurs de l'éducation nouvelle, des valeurs d'émancipation, de formation citoyenne, d'éducation active, et non pas de méthodes actives. Il y a sans doute de grandes proximités d'enjeux avec ce que porte l'univers ou le monde du libre, je ne sais pas comment le qualifier aujourd'hui, puisque au-delà des questions de technique et de logiciel, on est bien sur des questions d'enjeux citoyens, de responsabilité, de pouvoir d'intervenir, de maîtrise donnée à chacune et à chacun d'entre nous sur un univers qui est de plus en plus présent, qui est l'univers du numérique. Alors cet enjeu, il n'est pas nouveau au sein des CMEA, on l'a travaillé, et puis Pascal... tu en étais aussi à l'époque dans d'autres responsabilités porteurs. Je dois reconnaître que moi, je l'avais mal appréhendé. Je l'avais plutôt appréhendé sous l'angle un peu technique. C'est comme ça que je le voyais, dans une espèce de concurrence au monde marchand, sans doute, que je maîtrisais bien, mais qui était aussi une concurrence à Microsoft et à d'autres grands GAFA. Je l'avais mal situé, mal mesuré. Je le maîtrise pas forcément d'ailleurs aujourd'hui très finement. Mais en tout cas, je pense que les enjeux sur le fond me paraissent complètement convergents avec y compris l'histoire d'un mouvement qui est comme le nôtre, où on s'est construit aussi en expérimentant, en tâtonnant et en étant surtout garant d'une approche de responsabilisation des acteurs eux-mêmes dans ce qu'ils maîtrisent, dans ce qu'ils font au quotidien. Je pourrais rapprocher ça des enjeux aujourd'hui sur l'environnement, l'éducation durable. Je trouve qu'il y a des choses qui sont de même nature dans la philosophie profonde. Et un mouvement comme le nôtre, qui plus est appartenant à l'éducation populaire, c'est-à-dire avec cette volonté d'éduquer le peuple par le peuple et d'avoir un rôle aux côtés des citoyens, un rôle de présence, mais aussi un rôle où on peut laisser la bride à chacun après pour construire son propre parcours. Tout ça fait qu'à un moment donné... il fallait qu'on passe à la vitesse supérieure et puis qu'on utilise aussi, je pense, les compétences qui sont présentes dans l'équipe nationale, mais aussi largement au sein du réseau. C'est pour tout ça, tous ces éléments qu'on a été quelques-uns à impulser cette mission en disant qu'il faut quand même qu'on prenne cet objet de manière singulière. Ça ne peut pas se noyer complètement dans les enjeux éducatifs, de formation ou la question de l'éducation aux médias. Certes, il y a des grandes proximités, des enjeux qui sont des enjeux communs, mais il y a aussi des objets spécifiques, il fallait qu'on les traite en tant que tels.
Merci. Je voyais les copains de Framasoft qui hochaient la tête pendant que tu parlais, donc on va pas approfondir le sujet ensemble, puisque vous allez vous retrouver, enfin on va se retrouver tous les quatre après pour pouvoir échanger là-dessus, mais ça permettait de situer un peu le cadre dans lequel la mission évolue et donc cette émission se déroule. On va faire connaissance avec du coup François Audirac. C'est aussi une façon de montrer ce qui peut se passer avec la mission, puisque il y a à la fois porté des questions politiques et comme tu l'évoquais, Jean-Luc, et puis dans le même temps aussi de s'appuyer sur ce qu'on sait faire et de s'appuyer sur des outils. La Studio Box en est une bonne illustration. Alors, François va se présenter. On va juste noter qu'il a aussi des grandes aptitudes de gymnaste, parce qu'il est censé assurer la technique ce soir. Et donc là, il va avoir un bout de fesse sur la table avec nous pour parler en face du micro et un pied pour lancer des capsules sonores, puisqu'on vous a dit qu'on voyagerait. Voilà. Donc. François, même question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Alors, je suis François Audirac. Je suis le responsable informatique des CMEA, en tout cas de la partie association nationale, donc la partie qui demeure à Paris. Si je peux commencer par l'histoire de la...
Moi, j'allais t'inviter à nous raconter l'histoire de... Enfin, comment la Studio Box, puisque c'est de ça dont il s'agit pour le moment, cette web radio est arrivée au CMEA, comment...
Elle est arrivée à l'initiative de Sonia Chebbi. J'avais à peine intégré les CMEA que Sonia Chebbi me contactait. Donc Sonia Chebbi est la représentante de la FICMEA, donc la Fédération Internationale des CMEA. Et elle me contactait peu avant mon entrée pour une demande. Elle souhaitait retransmettre en direct des interventions d'un regroupement d'associations francophones qui avait lieu à Dakar. Et elle souhaitait que les interventions puissent être retransmises en direct partout. Et le thème de la rencontre était la lutte contre la marchandisation de l'éducation. Donc il n'était pas question d'utiliser des réseaux sociaux de type YouTube, Facebook ou autre. Et il fallait donc inventer un système pour pouvoir retransmettre en direct ces interventions. Pas question d'utiliser la vidéo, c'est un petit peu trop complexe en termes techniques et ça nécessite un débit important. Donc on s'est orienté vers de la rediffusion audio. Après quelques recherches, je tombe sur le projet Studio Box. Donc le projet Studio Box, il est lancé par l'Académie de Versailles et il permet aux établissements secondaires de cette académie d'avoir un canal web radio. Donc chacun avec un identifiant et un mot de passe peut retransmettre en direct sur Internet ce qu'il diffuse. Le problème, c'est que la Studio Box de Versailles ne fonctionne que pour l'Académie de Versailles et qu'il faut transformer cette Studio Box pour qu'on puisse, nous, l'utiliser au CMEA. Donc c'est ce qu'on s'attache à faire avec quelques techniciens. Et on contacte notamment les créateurs de la Studio Box à Versailles. On bénéficie de l'aide aussi de techniciens d'une association de Montpellier, l'association du BIB, qui participe à un regroupement organisé par les CMEA fin août. Et c'est ainsi que fin octobre 2017, on arrive. Pascal, toi tu es présent sur place à Dakar, moi je suis à Paris, et on arrive tant bien que mal à avoir une version, la première version de la web radio, qui naît dans ces conditions-là. C'est un petit peu archaïque, mais on s'en sort quand même. Deuxième défi, c'est que toujours la FICEMEA organise 2 mois plus tard un rassemblement sur le thème des outils numériques et l'éducation. Et à ce moment-là, le défi, c'est non pas de proposer une web radio, mais autant de web radio que de participants. Et c'est ce qu'on s'acharne à faire, donc accompagné de quelques testeurs. Et on crée cette web radio qui est utilisable sur une clé USB qu'on peut installer sur un PC. Et chacun, à l'issue de ce rassemblement, repart avec sa clé USB, sa Studio Box CMEA et son canal avec son accès qui va lui permettre de diffuser... quand bon lui semble sur la web radio.
On a demandé à Sonia et à Ousmane, qui fut un des grands personnages de ce rassemblement à Namur, de nous raconter un peu comment tout ça a pu se passer. Donc c'est une capsule sonore que vous allez entendre. Ousmane était au téléphone, la communication n'était pas forcément complètement évidente. Voilà, on vous laisse écouter l'histoire vue par Sonia Ousmane au Sénégal.
En effet, en 2017, nous avons lancé, en fait, lors de l'Agora internationale de la FICEMEA, la web radio. Et Ousmane était l'animateur pendant toute cette semaine. Donc Ousmane, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus sur pourquoi cet outil de web radio, pourquoi est-il intéressant pour toi ?
Merci beaucoup Sonia, merci beaucoup à tous nos amis également qui nous ont permis justement de mettre en place cette web radio. Je me rappelle avec beaucoup d'émotion son lancement au niveau de la Belgique. La web radio est d'une importance capitale, mais pour bien comprendre, peut-être il faudrait rappeler que c'est lié au développement du jeu numérique dans nos différents pays. En effet, ce que nous appelons communément l'inclusion digitale permet aujourd'hui, grâce au développement des Android et autres, d'avoir l'accès à Internet. Si je prends l'exemple de mon pays, eh bien, le taux d'accès est relativement élevé. Et aujourd'hui, presque dans les villages les plus reculés, eh bien, les habitants ont accès à l'Internet. Ayant accès à l'Internet, ils ont tout de suite accès à la web radio. Donc la web radio, déjà, rend plus accessible à la radiophonie. Parce que avec les technologies traditionnelles, il y a énormément de distorsions et dans certaines localités, même nos radios nationales ne sont pas entendues. Et sans beaucoup de moyens, parce que chacun a entre ses mains son téléphone. Et comme je le disais, dans une de nos émissions, la web radio est un voyage extraordinaire. Parce que cela nous permet, tout en restant chez nous, de communiquer avec tous nos amis à travers le monde, et notamment le démembrement de la FICEMEA, c'est-à-dire les associations nationales CMEA à travers le monde. Et cet échange d'expérience-là, c'est bien de le rappeler, permet un renforcement de capacités, mais également permet l'adoption de bonnes pratiques. Quelles bonnes pratiques? Ce sont les bonnes pratiques qui sont développées ailleurs que chez nous. Et cela nous permet de ne pas perdre du temps par rapport à la mise en œuvre d'actions innovantes. Si je connais l'expérience qui se déroule à Mayotte, par exemple, concernant les jeunes, il m'est beaucoup plus facile à travers la web radio de nous en approprier et ensuite d'essayer de l'expérimenter chez nous, tout en prenant quand même un certain nombre de précautions, en particulier la contextualisation.
Voilà, j'espère que tout le monde a réussi à entendre. La liaison téléphonique n'était pas très très bonne avec le Sénégal. Si vous allez sur le site de la web radio CMEA, c'est radio-pluriel.cma.org, vous avez une carte, François va en parler tout à l'heure, et notamment les émissions d'Ousmane sur Radio Sénégal. François, en résumé, du coup, on en est où maintenant ?
Alors aujourd'hui, la Studio Box, c'est je le disais, une clé USB, la possibilité donc qui permet de transformer son ordinateur en source émettrice, à condition aussi que les CMEA vous créent un canal personnel pour que vous puissiez émettre. Ce n'est pas ouvert non plus à n'importe qui. Vous pouvez donc émettre sur une page internet sur laquelle les auditeurs peuvent vous écouter. Aujourd'hui, on a un peu plus de 40 canaux de web radio qui sont ouverts, qui ont été ouverts selon des envies d'associations et qui diffusent selon leur disponibilité, selon leur projet, à des heures régulières ou non. Nous avons aussi des événements nationaux qui utilisent la web radio pour retransmettre, rendre compte. Qui utilisent aussi cet outil-là pour mutualiser, pour communiquer. Je pense à l'événement le plus récent qui est les rencontres européennes du social qui ont lieu en décembre, qui ont rendu compte régulièrement des interventions des personnes présentes. La web radio est aussi utilisée avec des partenariats locaux. Et oui, des partenariats comme des inspections académiques, des collèges, des écoles dans lesquelles la web radio est utilisée comme support pédagogique. Et les CMEA sont donc partie prenante du projet où elles peuvent intervenir auprès des classes et des enseignants ou d'autres associations pour mener des projets sur l'objet de la web radio, objet éducatif, mais aussi pour l'éducation aux médias et voilà, et d'autres projets plus larges.
Alors justement, on vous propose un petit voyage là au tout milieu fin fond de l'île de la Réunion pour retrouver Gilles Pennec. Gilles est un militant CMEA et aussi un conseiller pédagogique. Et il travaille beaucoup avec la Studio Box auprès d'élèves dans le cirque de Mafate, mais aussi avec des collèges. On lui a demandé de nous faire un petit montage et de nous raconter comment ça se passe là-bas sur l'île de la Réunion. Donc on l'écoute.
Et oui, Pascal, ici sur le Caillou, les expériences autour de la web radio fleurissent. Je vous emmène tout de suite dans un lieu extraordinaire à Mafate, où les élèves d'Ilette à Bourse produisent une émission tous les vendredis. Ils parlent de leur Ilette, mais se font aussi l'écho des autres écoles du cirque qui leur envoient des reportages.
Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Les élèves d'Ilette à Bourse sont dans le studio.
Les élèves d'Ilette à Bourse vont vous présenter leur émission Histoire d'école numéro 6 en direct. C'est Romuald au micro et à la technique. Maintenant, Tyler va vous parler de la Coupe du Monde de football.
L'enseignante a même décidé de faire une brève émission quotidienne au cours de laquelle les élèves informent les auditeurs de la météo, de l'éphéméride et de l'anniversaire d'un événement historique marquant. Après ces extraits de Radio Mafate, je vous propose maintenant d'écouter les réactions des élèves de la classe.
C'était bien de mettre la web radio sur un ordinateur parce que ça nous permet de diffuser en direct nos émissions radio, histoire d'école et l'éphéméride que nous faisons tous les jours. C'était très difficile avant de faire des phrases en français. Maintenant, je suis à l'aise pour parler en français et ça m'a permis aussi de travailler ma fluidité en lecture et en écriture. C'était très dur de comprendre comment fonctionnait la web radio au début, mais maintenant c'est très facile pour moi. Avant la web radio, je bégayais beaucoup et c'était désagréable. Et je remarque que les autres aiment m'écouter maintenant et ne se moquent plus de moi.
La web radio m'a permis de travailler sur des sujets qui m'intéressent beaucoup et d'être meilleure en lecture et en écriture.
Mais qu'en pense la maîtresse Sarah Emmerich de cet usage de la web radio en milieu scolaire ?
Alors, la web radio, pour moi, c'est un outil formidable à l'école. J'en ai fait l'expérience là depuis un an maintenant dans ma classe unique à La Réunion. Au début, j'ai accompagné les élèves dans le choix, la rédaction des sujets à préparer. Maintenant, ils sont devenus un petit peu plus autonomes. Ils prennent plaisir à choisir les sujets qui les intéressent et qui se rapportent soit à leur environnement proche ou même un peu lointain. J'ai su que je pouvais compter sur eux tout de suite pour s'approprier cette partie technique. Et donc, je me suis déchargée un petit peu sur eux et ils s'en occupent très, très bien. Maintenant, ils sont autonomes. Et je peux dire qu'ils se sont appropriés tous ce merveilleux outil que représente la web radio.
Lucille, parent d'élève, nous livre ses impressions en créole sur cette activité innovante au cœur du cirque de Mafat.
Ah ouais, c'est très bien. Ah, c'est super pour les enfants d'ici. Vu que les adultes n'ont point tout ça, les enfants d'ici en bois, ont beaucoup de chance, ça va. Oui, moi, bien que les enfants d'ici en bois, ont beaucoup de chance d'avoir une radio juste à côté de l'école. Et tu peux aller à la radio pour parler, pour faire passer des messages, des adultes et tout ça. Ah, franchement, on est vraiment super.
Le collège Texera da Mota à La Possession s'est aussi lancé dans l'aventure web radio. Cela a commencé par une formation des CMEA, au cours de laquelle les participants ont vécu en web radio le lancement du stage par le personnel de direction et les formateurs. Voici un extrait.
Bonjour à tous, ici Radio Texera da Mota. Donc, vous présentez succinctement les objectifs prioritaires de la web radio comme média scolaire. Développer les compétences langagières, qu'elles soient orales et écrites, puisque les élèves vont passer par des phases de recherche, de traitement de l'information, de synthèse, de rédaction d'articles, ce qui doit permettre d'approfondir les savoirs et savoir-faire à l'écrit. Je passe maintenant la parole à Madame la principale adjointe.
Alors bonjour à tous, je vais vous dire un petit mot sur la genèse de cette formation pour cette année scolaire. Au niveau des invités, nous avons Madame Rivière, qui est professeure documentaliste et qui est intéressée par cette formation, ainsi qu'une invitée professeure des écoles dans le cadre du conseil école-collège que nous copilotons avec Monsieur Hilarouti, qui est aussi présent et à qui je vais laisser la parole pour poursuivre et terminer le lancement de cette formation.
Bonjour à tous, donc Monsieur Hilarouti, je suis heureux d'être présent ce matin pour participer à l'ouverture de ce stage qui a été rappelé, hein, que ce soit par Mme Fourmi ou Mme Meyer, effectivement augure de belles perspectives en matière d'usage du numérique au service de la maîtrise de la langue. Il a été évoqué les différents projets qui peuvent prendre appui effectivement sur ce média numérique en matière effectivement de production orale essentiellement.
Alors je vais vous présenter brièvement le déroulé de la première partie de cette formation. Qui a pour objectif de vous montrer que faire de la web radio, c'est pas forcément compliqué. Quelques semaines plus tard, la web radio du collège diffusait et l'on pouvait entendre ceci.
En direct du collège Texera da Mota, bonjour à tous, c'est parti pour notre première émission de web radio. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes grâce auxquelles ce beau projet a pu être mené à bien. Un grand merci à tous. Passez un excellent moment. C'est parti!
Voilà Pascal, tu en sais un petit peu plus sur l'aventure web radio à La Réunion. Mais ce n'est pas tout, il faut savoir que la classe d'Ilette à Bourse et le Cirque de Mafate va utiliser cette studio box web radio pour diffuser lors de la classe de mer. Du côté des CMEA, les formations s'enchaînent également. Et nous allons utiliser ce média pour donner un petit peu plus d'écho et toucher un maximum de public lors de nos manifestations comme les échos du Festival du Film d'Éducation ou la Semaine sans écran ou des manifestations de ce genre. Donc ce n'est que le début de l'aventure web radio et je crois qu'il y a encore de belles perspectives avec ce magnifique outil qui, on m'a dit, va encore évoluer dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
Alors justement, François, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'évolution de cet outil ?
Oui, donc si nous étions restés à une première version avec la clé USB, nous travaillons déjà sur la deuxième version. L'objectif de la deuxième version, c'est de transformer votre propre poste en web radio sans utiliser de clé USB. Donc on simplifie un peu le processus, on améliore la diffusion avec des statistiques en direct sur le nombre d'auditeurs. D'ailleurs, en ce moment, on peut voir qu'on a 12 auditeurs qui nous écoutent. Et puis, des fonctionnalités complémentaires sur une table de mixage virtuel. Enfin, voilà, c'est en préparation. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous rendre sur le site radio@cmea.org. Sur ce site principal, vous pouvez retrouver la liste des radios existantes à l'aide d'une carte interactive. Une page aussi pour demander l'ouverture d'un canal si vous êtes intéressé, ainsi qu'un lien vers la documentation et pour télécharger la Studio Box. J'invite toutes les personnes qui souhaitent participer à ce projet à nous contacter. Il y a beaucoup de tests à faire, de la documentation à relire, contribuer en proposant des idées. Et voilà, vous êtes les bienvenus pour améliorer cet outil. À très bientôt.
Ok, avant de clore le chapitre web radio, deux petites choses. On va aller avant d'aller écouter Vincent, on a eu quelques messages sur le pad, donc je vais m'empresser de les lire puisque il y a du monde qui écoute et qui écrit sur le pad. À la lecture du message, même s'il n'est pas signé, je crois savoir d'où ça vient. En tout cas, voilà, je passe le message. Bravo Gilles pour cette initiative à Mafate. Il est sûr, cet outil devrait faire partie du programme à l'ESP. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'ESP, c'est l'endroit où on forme les futurs enseignants. Et la question suivante étant, vous utilisez la V2 ? On t'a reconnu Lolo. Et non, on utilise la version 1 pour diffuser ce soir. Pour clore le chapitre web radio et pour répondre à la question et maintenant, il y a une autre expérience qui va être menée dans quelques temps. Les CMEA sont présents régulièrement dans plusieurs festivals. Le festival de Bourges approche et le groupe culture des CMEA a décidé d'y animer une web radio avec les jeunes qui sont accueillis pendant le festival. On vous propose deux toutes petites minutes de leur entraînement et Vincent qui présente le projet de la web radio à Bourges.
Bien le bonjour. Un petit mot de présentation dans le cadre des accueils que les CMEA font sur le printemps de Bourges cette année. Du 15 au 21 avril, on a le projet d'installer une web radio et pendant le week-end de préparation qui a eu lieu au début du mois de mars cette année, les équipes d'animation, les militantes et militants CMEA qui étaient présents sur ce week-end se sont essayés à un petit atelier où on a manipulé un peu, on s'est mis un peu en situation et puis on a réfléchi au contenu qu'on aimerait bien mettre dans cette web radio. Donc vous allez entendre un tout petit extrait des productions qu'on a pu faire. Donc micro-trottoir plus un petit peu de montage pour construire un peu une ambiance sonore. Bonne écoute.
Alors, vos impressions à la sortie de ce concert ?
Bah écoutez, plutôt bonne, ce fut un super concert, j'ai adoré, c'était la première fois, c'est vraiment super sympa, les artistes, on les voit de vraiment près, les sons, les vibrations, c'est vraiment une très très bonne ambiance.
Et c'est votre premier festival du printemps de Bourges ?
Oui, tout premier.
Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire comment vous trouvez le festival cette année ?
Voilà, et pour connaître la réponse, on vous invite à suivre la web radio du Festival de Bourges. L'adresse sera évidemment communiquée sur radio.cma.org. On clôt là le chapitre web radio. On va vous proposer une petite pause musicale le temps que François puisse regagner la table de mixage, que les uns les autres puissent s'installer autour de la table. Ça s'appelle Badjo, enfin c'est un morceau de Badjo qui se nomme Ukulélé. Non. Top d'annoncer les musiques en plus Radio Libre, c'est un des messages qui nous est arrivé sur le pad. On l'a pas dit, mais évidemment les musiques qui sont proposées là sont téléchargées sur des sites qui proposent de la musique en Creative Commons comme Jamendo ou Librasic ou Au bout du fil. Et évidemment on laissera les coordonnées des morceaux utilisés sur la page du podcast. Donc nous voilà de nouveau dans le studio où on accueille de nouveau Jean-Luc Cazaillon, à qui on ne va pas demander de se représenter.
Et je vous remercie.
Et puis un petit bout de l'équipe Framasoft, bah, je vous laisse vous présenter.
Eh ben, Christophe Mazuti, je suis l'un des co-administrateurs de Framasoft.
Et Frédéric Urbain, je suis aussi un des co-administrateurs de Framasoft. On dit ça à chaque fois, mais en fait, on est tous plus ou moins co-administrateurs puisqu'on prend les décisions en commun. Donc, ça nous fait du bien de dire qu'on est co-administrateurs, mais en fait, on est quasiment tous.
On aurait pu tous s'appeler Camille, en fait.
D'accord. Donc, l'idée de nous réunir tous les quatre, c'était il y a quelques, quelques mois, quelques semaines. Ça fait un moment qu'on en parlait, les CMA ont Framasoft, et Framasoft ont signé ensemble une convention de partenariat. Pendant longtemps, on l'a appelé une convention d'amitié. Voilà. Et du coup, la question que je vous pose à tous les trois, c'est mais pourquoi ? Qu'est-ce qui peut bien rassembler Framasoft et les CMA ? Qu'est-ce qu'on peut avoir à se dire au point de faire une convention
Tout à l'heure, on a écouté Jean-Luc avec beaucoup d'attention et il a tout à fait bien résumé ce pourquoi on a fait cette convention. Je pense qu'il y a des valeurs, mais pas seulement des valeurs, aussi des principes et des pratiques qui nous rassemblent beaucoup. Elles vont, dans un certain sens, on parle beaucoup, on parle beaucoup en ce moment du capitalisme de surveillance, qui est en fait pas seulement un ensemble de pratiques, mais aussi un ensemble de façon d'être, d'une privation de nos libertés. Ce qui fait qu'il est difficile aujourd'hui dans le monde numérique qui nous impose quelques menottes, de faire l'économie des aspects qui nous rassemblent tous, à savoir les luttes sociales, les luttes solidaires, etc. Et dans l'éducation populaire, tout particulièrement, on trouve ces créneaux pour favoriser tout un ensemble de messages et en se mettant ensemble avec les CMA dans une convention d'amitié. Et je pense qu'on peut toujours continuer à l'appeler comme ça, parce que c'est une vraie amitié qui s'est nouée là. On va trouver de l'entraide et de la solidarité, à savoir les CMA qui sont porteurs de pratiques et de tout un savoir-faire historique dont on ne peut pas aujourd'hui faire l'historique entier sans y passer des heures. Et puis Framasoft qui est beaucoup plus jeune, mais en même temps, qui a initié un ensemble de projets qui portent finalement sur l'éducation populaire, au numérique et aux libertés numériques.
J'ai pas demandé tout à l'heure, parce que tout le monde connaît, mais c'est peut-être pas vrai, il y a peut-être encore des gens qui ne savent pas qui est Framasoft, ce qu'est cette association. Ça vaut peut-être le coup que vous en disiez deux petits mots, même si à mon avis parmi nos auditeurs et auditrices là ce soir... ils doivent vous connaître, mais comme ça sera podcasté, c'est aussi l'occasion de le présenter. Puis après, Jean-Luc, tu réagiras aux deux propos.
Alors c'est drôle parce que Jean-Luc, justement, qui disait qu'il ne comprenait pas grand-chose à tout ça, finalement, du libre et tout. En fait, il a très bien résumé le parcours de Framasoft, qui est parti de l'éducation nationale, Frama, français, maths. Hein, on le dit à chaque fois, ça vient de français, maths. Donc des profs qui au début étaient une association juste de promotion du logiciel libre, un peu bisounours, qui disait aux gens c'est mieux d'utiliser du logiciel libre, et puis qui a fini par réagir à l'omniprésence des GAFAM, et donc des sociétés américaines sur le net, avec la campagne dégooglisons Internet, où on a dit il y en a marre, il faut virer ces gens-là. Donc une réaction assez épidermique, hein, un truc, voilà. Et puis qui a fait évoluer son propos vers quelque chose de plus large. Alors on parlait du rapprochement avec l'environnement, par exemple. Nous, on a initié le mouvement Chaton, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Voilà, ça c'est joli. Hein.
C'est très bien.
On a qui sont les AMAP du logiciel libre, comme on dit toujours, c'est-à-dire vraiment le rapprochement avec l'environnement, avec un fonctionnement plus responsable, plus décentralisé, etc. Et puis récemment, Framasoft, qui longtemps s'est dite apartisane, pas forcément apolitique, mais apartisane, Framasoft a pris un virage en disant tout ce qu'on fait là, finalement, c'est éminemment politique. Et on ne peut pas faire l'économie de parler de politique quand on parle de logiciel libre. Alors la seule case qui te manquait, Jean-Luc, c'était la partie culture libre. Parce qu'au-delà du logiciel, il y a toute la partie culture. On a parlé des musiques libres tout à l'heure, mais il y a aussi la littérature libre, il y a aussi tout ce qui est culture libre, libre diffusion. Et ça, c'est aussi un des éléments qui nous rapproche, à mon sens.
D'abord, je te remercie de n'avoir remarqué qu'il ne manquait qu'une seule case. Ça va, j'ai encore un potentiel à développer. Donc voilà, c'est toujours bien de repérer.
On va t'aider à la cocher, t'inquiète
merci,
pas.
Merci. Donc effectivement, il y a une forme de ma place à moi, et puis dans mon parcours aussi,
une forme relative d'incompétence, on va dire ça comme ça, mais pour sur le fond, mais enfin sur le côté particulier, mais je pense que assez rapidement, pour des raisons que vous venez d'expliquer aussi, je ressens et je perçois les enjeux. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, tout à l'heure je l'ai dit, on est, en tout cas moi je suis rentré dans une approche, une mauvaise approche, qui était l'approche logicielle, en voyant le côté très utilitaire et sans peut-être de me prendre le temps de regarder la question des enjeux et en quoi le logiciel était que la partie émergée en fait d'un iceberg beaucoup plus profond. Et pour les CMEA globalement, malgré, je le sais, des collègues qui depuis longtemps portent cette sensibilité et ont tenté de nous alerter là-dessus, pour les CMEA, un mouvement globalement, je pense qu'on est au début de l'appréhension de ces enjeux-là. Alors après, moi je pense qu'effectivement, c'est pour ça que c'est à la fois une convention d'amitié et puis une convention partenariat qui ne doit rien au hasard. L'éducation nouvelle, on le dit souvent, c'est notre façon à nous de faire politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à être pour ou contre tel ou tel parti ou syndicat ou autre. Ce n'est pas notre façon de raisonner. Mais dans l'approche éducative et dans les conceptions et les pratiques qui en découlent, c'est notre façon à nous d'agir le projet et donc de faire politique. Et donc ça aussi, c'est un élément qui nous rapproche, c'est-à-dire à la fois un objet particulier ou des objets particuliers et en même temps quelque chose qui ramène au fondamental, qui fait qu'aucune pratique n'est neutre. Voilà, moi je pense que c'est souvent un élément qu'on a souvent défendu et argumenté à différents endroits, qu'on en ait conscience ou pas, la façon dont nous agissons traduit ou révèle des conceptions pédagogiques, références, politiques, éducatives, conscientisées ou pas, à nouveau, mais qui existent de fait. Et donc je pense que ça, c'est aussi une façon de rapprocher les sensibilités, parce que chacun dans nos champs différents, on fait politique de manière complémentaire, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est la complémentarité aussi des espaces et des formes d'intervention qui créent le sens d'un partenariat, parce que chacun apportant à l'édifice commun sa façon, son savoir-faire, son approche. Et moi, on s'est croisés à Valras fin août dernier. On était quelques-uns de l'équipe nationale et des militants du réseau à participer à ce débat très ouvert. Et je sais que, pour en avoir parlé avec beaucoup de collègues qui étaient là, la réflexion portée par Pierre-Yves, par exemple, ça a marqué. C'est-à-dire qu'effectivement, ça éclaire différemment l'entrée logicielle ou le côté lubie qu'on a pu avoir aussi à l'époque où ils étaient assez peu nombreux à nous rabattre les oreilles avec le libre, quand tout le monde était très content d'avoir Microsoft, Google et autres. Et il a fallu qu'on dépasse ces clichés aussi entre nous pour conscientiser. C'est aussi ça qu'on a fait entre nous, c'est qu'on a fait EducPop au sein même des CMEA.
Oui, c'est vrai que quand on cherche à conscientiser les gens à propos du libre, je pense que Framasoft a aussi fait ce chemin qui nous a quand même pris du temps de ne pas chercher à imposer, à asséner la liberté. Ça ne s'assène pas, ça ne se peut pas, ça se pratique. Et comment dire, il faut laisser la liberté aux gens de choisir. Si on ne leur laisse pas cette liberté de dire, voilà, bah, si tu veux utiliser Windows, tu peux utiliser Windows. Si tu trouves les besoins, si tu combles tous tes besoins avec des logiciels propriétaires, mais pourquoi pas, il n'y a aucun problème. Par contre, voilà, nous on délivre un discours qui te rend attentif à certains aspects, à certains enjeux dont tu ne peux pas te passer ou ignorer. La neutralité technologique dont tu parlais nous a été maintes fois rétorquée, hein, y compris à des très hauts niveaux de l'État, qui vise à justifier finalement le choix de technologies propriétaires et des menottes et des verrous numériques plutôt que d'autres. Et je pense que ouais, elle a fait son temps, la neutralité technologique, la neutralité qui consiste à nous faire croire que le progrès ne va pas sans une sorte de rentabilité économique du logiciel et de tout ce qui finalement sert de support à nos connaissances, ça peut plus marcher.
Je voulais juste préciser, Jean-Luc, parce que tu as parlé de Valras tout à l'heure, d'en dire le contexte, parce qu'il est aussi il explique pas mal ce que nos deux associations essayent de faire ensemble. Donc Valras, pour ceux qui ne sont pas des CMEA ou n'étaient pas aux rencontres de l'éducation nouvelle, c'est là que nous nous sommes réunis, que nous, au mois d'août dernier. C'est Les rencontres d'éducation nouvelle réunissent environ 200 militants des CMEA. Et l'objectif, c'est de retravailler ces questions d'éducation nouvelle au travers de parcours pendant ces 5 jours. Et c'était très chouette que 5 membres de Framasoft, vous y êtes 5, hein,
oui, 5
et accepté l'idée de venir participer au Rennes avec nous, mais pas pour y être des Framasoft et faire ce qu'on vous invite à faire habituellement, c'est-à-dire parler du libre et de ses enjeux, même si, comme Jean-Luc l'a dit, on l'a fait le soir en dehors des temps, mais vous avez accepté de jouer le jeu, de venir suivre un parcours de militants CMEA pour vous approprier aussi, comprendre ce qu'est notre mouvement et ce qu'est l'éducation nouvelle. Pardon. Ce qui était... c'était une... très, 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 très intéressant que vous ayez accepté ça. Dans le même temps, moi, j'ai eu la chance de participer, même partiellement, à un de vos Framacamps, hein, c'est-à-dire vous voir aussi vous faire dans d'autres espaces. Ouais. C'est aussi une façon de mieux se comprendre.
C'était déjà moins organisé, un Framacamp. Hein.
Moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit. Parce que je trouve que, en tout cas, moi, je suis sensible à cette question-là. C'est qu'on ne peut pas être que dans la prévention des risques, parce que c'est aussi, on le voit bien, enfin en tout cas aujourd'hui, c'est un discours très largement dominant. Les risques sont réels, hein, réseaux sociaux, enfin tout ce qu'on veut bien. Mais faire que ça n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut qu'on soit dans l'apprentissage du bon usage. C'est-à-dire qu'on renverse et qu'on en fasse une démarche positive, parce que malgré tout, aujourd'hui, le numérique, c'est aussi une formidable ressource géniale qui permet de faire plein de choses nouvelles qu'on ne pouvait pas faire avant. Et moi, je pense que cette question de comment on articule à la fois un discours qui est un discours politique, qui peut effectivement démontrer la question des pratiques, des dérives potentielles, et dans le même temps, d'avoir une posture où j'apprends et j'accompagne chacun et chacune d'entre nous à bien l'utiliser, ce qui nous est permis d'utiliser, eh bien c'est les trois pieds en fait fondamentaux de la réflexion, et ça fonde là aussi la question de notre collaboration et du travail de terrain que l'on fait ensemble, c'est-à-dire que chacun y amenant sa touche à l'édifice. Et je crois que du côté des jeunes, du côté des gens qui sont éloignés de ces questions des pratiques quotidiennes du numérique, alors les jeunes pour des raisons de maîtrise globale et dans l'usage du numérique, pour les gens qui sont éloignés, tous ces éléments-là, on ne peut pas les résumer à la question de la prévention des risques, il faut aussi les construire et aider les gens à construire leur propre intelligence dans la connaissance et l'appropriation d'outils et d'espaces citoyens, parce que on revient à cet enjeu-là, c'est quand même aujourd'hui, on parle beaucoup de citoyenneté numérique, donc c'est pas un enjeu anodin.
Oui, bien c'est justement le thème de notre campagne Contributopia, l'utopie de la contribution, qui justement vise à renverser un peu la vapeur et à prendre les choses de façon un peu plus positive, déjà avec des illustrations beaucoup plus jolies, beaucoup plus... Parce que la prévention des risques, le fait d'agiter la peur de l'ogre américain, c'est bien joli, ça marche bien. D'ailleurs, en France, ça a très bien marché, la campagne des Googlisons, parce qu'on a réutilisé un peu l'imaginaire d'Astérix, le petit village qui résiste, etc. Donc ça parlait aux gens, et donc c'était plutôt efficace comme discours. Mais en effet, ça suffit pas. Il fallait aller au-delà et présenter aussi le côté positif. On n'était pas que dans la résistance. On a des choses à construire aussi avec le libre. Et c'est ça tout l'objet de Contributopia et de ce qu'on fait là tous ensemble d'ailleurs, et de ce que font les CMEA depuis très longtemps. C'est aller vers au-delà du risque et de la peur et de tout ce qu'on veut, faire en sorte de construire un avenir qui soit un peu plus intéressant pour tout le monde que ce qu'on a jusqu'ici trouvé.
Il faut dire aussi qu'on est en plein apprentissage avec Contributopia. Tout comme avec Douai Googlisons, on a nous-mêmes, Framasoft, on a appris à non pas seulement nous dégoogliser, c'est-à-dire utiliser des outils libres, etc.
L'exemplarité.
Mais l'exemplarité. Et on s'est aperçu, ça a pris du temps, mais on s'en est aperçu quand même, et c'est ce qui fait que, on est ce qu'on est, mais on s'est aperçu que finalement, démontrer, c'est tout aussi puissant que juste expliquer ou toujours être dans la résistance, comme tu le disais. C'est construire et construire ensemble.
Là, si on prend les deux dernières plus grandes réussites, à mon avis, du libre communautaire qui est actuellement à la mode, on va dire, Mastodon, Peertube, hein. Bon, Peertube parce que Made in Framasoft, mais pas uniquement. Mastodon, c'est pas nous qui avons créé ça, mais enfin bon, c'est Framapiaf, une instance Mastodon qui est quand même, pour les francophones, assez connue. Ce sont deux lieux et en même temps deux systèmes techniques qui montrent à quel point une construction communautaire peut aboutir à une communion communautaire.
C'est beau, Christian.
C'est juste nul. Et une communion technique, je veux dire.
Et dans le même temps, ça démontre aussi ce qu'on essaye d'expliquer dans les solutions qui peuvent être apportées. C'est au moment là où on entend parler de tout ce qui peut être fake news, etc., et de la complexité de contrôler des plateformes monumentales comme Facebook ou Twitter, se dire que techniquement, il existe des alternatives. Alors, si on prend l'exemple de Mastodon, qui fonctionne parfaitement, qui remplissent le même rôle qu'un réseau social, mais qui, parce qu'il est organisé différemment par instance, permet un contrôle bien plus intéressant et bien plus pertinent, voire un autocontrôle, c'est-à-dire qu'on reprend la main sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible sur mon instance. Et mon instance a le choix de se connecter ou non à d'autres instances. On reprend la main, on reprend la maîtrise du numérique. Donc c'est... Voilà, c'est à la fois démontrer et en même temps démontrer aussi que c'est possible et que ça permet de résoudre des problèmes qu'à mon sens on parviendra très difficilement à résoudre là avec les plateformes qui existent actuellement.
Mais on prend surtout la maîtrise de ce qui est à nous, parce qu'Internet c'est un commun. Ça appartient à l'humanité tout entière et il est hors de question que ce soit privatisé par quelques plateformes, aussi riches soient-elles. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est à nous, ça nous appartient. C'est au sens même de ce qu'on appelle les communs. Internet en fait partie. Et d'ailleurs, même Tim Berners-Lee, le créateur du web, l'a rappelé encore récemment. Voilà, c'est notre propriété, tout ça, notre propriété commune.
Mais on touche du doigt encore des choses qui font écho quand même, hein, parce qu'on a vu revenir en force il y a quelques années la question de l'empowerment, qui était, dit autrement, le pouvoir d'agir, qui n'est plus ni moins qu'une des conceptions fondatrices de l'éducation nouvelle, c'est-à-dire c'est ça l'éducation active. Hein, les méthodes actives, c'est je t'agite ou je te fais t'agiter. L'éducation active, c'est quand toi tu décides d'être actif dans ta propre éducation, donc tu en es le moteur. Et moi je pense que là on est au cœur aussi d'un enjeu qui croise complètement ce que l'on traite depuis 80 ans au niveau des CMEA. On n'est pas les seuls d'ailleurs, hein, mais tous les mouvements d'éducation nouvelle promeuvent cette approche de l'éducation active, et que ce soit dans l'école ou hors l'école, voilà. Et là je pense que du côté du numérique et de ce qu'on évoque là, on retombe sur un enjeu fondamental adapté au 21e siècle. Il y a 50-60 ans, on ne se posait pas la question du pouvoir d'agir dans le rapport au numérique. Mais aujourd'hui, ça devient l'enjeu de citoyenneté, du rapport au pouvoir que j'ai sur le monde, mon environnement, qui est un enjeu central. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que là aussi, quand tout à l'heure je disais que c'était aussi en lien avec les conceptions et les convictions profondes de l'éducation nouvelle, c'est aussi une façon de raisonner et de porter ensemble cet enjeu commun. Voilà. Et je ne reviendrai pas après sur... la communion de... Comment t'as dit, la communauté de communion? J'ai failli verser une larme, mais en tout cas, là aussi, il y a quelque chose qui... Dans la place du groupe. La place du groupe. Dans l'acte éducatif, ou comment je tisse mon rapport individu-groupe, c'est aussi un autre des piliers de l'éducation nouvelle qui fait que voilà, le rapport communauté au sens rassemblement sur un objet commun, ça fait partie aussi des supports à l'éducation active, quoi. Donc, il y a plein de croisements et voilà, je trouve ça c'est vraiment intéressant de le mesurer.
Tout à l'heure, Frédéric parlait de faisait le parallèle avec la map, hein, et en parlant de la map du numérique, je suis intimement convaincu qu'avec les outils dont on vient de parler, que ce soit Peertube, que ce soit Mastodon et tout ce qui tourne autour d'ActivityPub, on peut recréer du lien social avec le numérique, alors que justement on a une image inverse. Le numérique, il est complètement désincarné et on n'a absolument pas la main dessus. Je pense véritablement que si on travaille bien et qu'on explique bien, il y a vraiment de quoi se réapproprier ces outils et nos données, évidemment, mais aussi recréer du lien social à partir de ces outils-là. Ce serait un bel outil pour ça.
Bah, une tendance qu'on avait peut-être il y a encore quelques années, c'était de dire, si tu veux créer du libre, vas-y, ouvre ton instance, vas-y, ouvre ton site, mets dessus ton blog, installe un WordPress. Oui, mais non, les gens n'ont pas forcément envie de le faire, ils n'ont pas forcément les compétences techniques de le faire. Et donc, tout ce qu'on a appris, finalement, c'était de dire que, au final, ce qui était important, c'était de créer du groupe. C'est ce que tu disais, Jean-Luc. C'est parce qu'on crée du groupe, c'est parce qu'on fait quelque chose en commun que le libre se crée aussi. Donc, résultat, on a initié les mouvements des chatons, qui sont des collectifs, qui, en fait, regroupent des gens qui savent faire, qui eux-mêmes vont ensuite servir de support pour ceux qui veulent faire. Et de cette manière, on crée de la connaissance et des compétences et on se réapproprie le web qui nous appartient.
Puis avec une vertu aussi, c'est que les chatons rendent service aussi à ceux qui ne veulent pas faire ou qui ne peuvent pas faire et qui vont quand même pouvoir utiliser des services libres sur Internet sans être aliénés, sans être assaillis de pubs, sans... Enfin, tout ce que le libre permet, justement. Et puis moi, j'aime bien rappeler aussi que la campagne des Google Disons Internet, où on a sorti 34 services Internet en 3 ans, ça a coûté l'équivalent de 81 mètres d'autoroute. Donc, quand on entend ça, il n'y a pas de problème de moyens, en fait. C'est pas ça, le problème. C'est le problème de l'appropriation. C'est le problème que les choses vont vite et que les gens n'ont pas forcément le temps de se mettre à jour. Et là, on a un rôle à jouer, nous, éducation populaire, que ce soit les CMEA ou Framasoft, faire en sorte que les gens s'approprient tout ça et soient capables d'utiliser ces outils-là en toute connaissance de cause. Et même si ce sont parfois des gens qui utilisent des outils propriétaires, on ne va pas leur jeter la pierre. L'important, c'est qu'ils connaissent le risque, qu'ils sachent exactement ce qu'ils font avec ça et les conséquences que ça a.
Quand les premiers jeux vidéo sont sortis, il a fallu que, par endroits, on arrive à se convaincre que c'était des jeux qui avaient la même place, la même importance que les jeux traditionnels. Puis il a fallu après qu'on regarde, parce qu'on avait la crainte que ce soit des jeux qui isolent et qui renferment les joueurs, en fait, chacun chez eux devant leur écran. Or, aujourd'hui, quand même, rarement je peux jouer seul devant mon écran, mais c'est souvent les vrais joueurs jouent dans des réseaux et donc on est dans un rapport aux autres malgré tout, donc ça désocialise pas, ça socialise autrement. Et puis moi, je pense qu'aujourd'hui, mais vous avez raison, à la fois à travers les chatons, mais aussi à travers les enjeux que Pascal a décrit aussi tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, les espaces de proximité dans lesquels je peux recréer de la socialisation pour pouvoir trouver des gens qui vont m'accompagner, m'aider, m'épauler, ou que je pourrais accompagner, aider, épauler, est un des enjeux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Europe s'occupe beaucoup des jeunes qui sont, je ne sais plus comment ils les appellent, enfin des non-barbares, éloignés de tout, qui ont le moins accès. On pourrait regarder aussi des familles qui sont dans des rapports aussi à très, très tendus ou très distants au monde du numérique. Et donc, il faut recréer des espaces de proximité, de socialisation autour du numérique. C'est un enjeu qui est typiquement à la croisée des chemins entre l'objet, le support et puis l'espace dans lequel on travaille, on se réunit pour agir ensemble. Donc ça, c'est vraiment une dimension particulièrement forte pour nous aussi, quoi.
Christophe, sur le pad, on te remercie d'avoir créé ce nouveau slogan de la construction communautaire à la communion communautaire.
Voilà.
Ça, c'est fait.
Bon, alors je vais aller sur le pad.
Ça s'appelle une fulgurance.
On est arrivé pratiquement au bout de l'échange avec vous, mais nul doute qu'on vous réinvitera.
Avec plaisir.
Vous voulez créer de nouveaux slogans et autres. Juste, c'était pas prévu la question, mais comme c'est de l'actualité, on s'était posé la question avec François, on n'avait pas le temps de le construire suffisamment bien, mais vous n'êtes pas obligé de répondre si vous n'avez pas envie de répondre. Hier, il y a eu un article 13 qui a été voté au Parlement européen. Il y avait un, je trouve, très bon papier d'Amaël Guiton ce matin sur Libération qui parlait de victoire à la Pyrrhus. vous pouvez, avez envie d'en dire quelque chose, pas parce que c'est trop tôt et qu'il faut voir. On refera, je pense que de toute façon, on fera une émission là-dessus.
Je pense que là, effectivement, sur les communs, il va falloir refaire une émission parce que c'est tout un sujet. Pour ce qui me concerne, moi, alors là, je parle uniquement en mon nom personnel, je pense qu'il faut un petit peu attendre. Parce que je ne suis pas certain que cela desserve complètement le libre, dans le sens où le libre peut servir de recours à ce genre d'article piégeux. Peut-être Fred, tu as une autre idée. En tant qu'écrivain.
Non, je ne veux surtout pas me mêler de ça. Non, il y a d'autres associations qui s'occupent de ces choses-là très bien. Et c'est vrai que je suis un peu comme toi. J'attends de voir ce qui va se passer. Et c'est vrai qu'on peut, espérer que le libre ait une carte à jouer, justement, face à ce genre d'enjeux, de modification du droit. Après, c'est vraiment à double tranchant et je pense que ça va nous coûter plus que ça va nous rapporter, je pense.
Comme à chaque fois qu'on touche à ce genre de questions par le droit et au vu des votes qu'il y a eu au Parlement européen, c'est-à-dire que l'article 13, enfin, l'ensemble de la loi a été voté vraiment ric et rac au niveau du nombre de voix, c'est quand même les avis étaient...
Alors moi, j'ai pas d'avis du tout sur le fond, parce que c'est effectivement pour moi un dossier qui est très compliqué, enfin, en tout cas de ma place. Hein, je sais qu'il y a d'autres personnes sans doute mieux placées pour le comprendre. Par contre, ça milite quand même pour aussi une chose qu'on n'a pas encore, du côté des CMA, qu'on ne porte pas à sa juste place, c'est l'enjeu européen. C'est-à-dire que je pense que là, on est resté quand même très dans le propos très franco-français, au sens évolution et dans le contexte sociétal que l'on connaît. Et encore, quand je dis franco-français, mais je pense que la question de l'enjeu européen sur ces questions-là est une question fondamentale. On essaye, nous, d'approcher un peu, de comprendre et de savoir quels sont les bons espaces aussi pour porter cette réflexion dans une logique, pas de lobbying, parce que c'est pas notre culture et qu'on n'est pas taillé pour, mais en tout cas de conscientisation et de portage un peu d'un discours particulier. Mais ça milite encore pour ça. Je pense qu'on a bientôt un rendez-vous à la Maison de l'Europe prochainement sur ces questions-là. On essaye de faire avancer la réflexion à une échelle européenne. Tout à l'heure, on faisait référence à la Fédération internationale des CMA. C'est pas non plus anodin que les choses se traitent aussi quand on a une fédération qui rassemble des pays d'Afrique qui sont aussi confrontés à des problématiques de cette nature, avec derrière en plus le rapport marchand qui est encore plus présent dans l'espèce d'invasion marchande sur les terrains de l'éducation qu'ils connaissent. Donc l'enjeu européen, après sur le fond.
On réclame Dominique Leperlier sur le pad. C'est pas une vanne, Dominique. Donc merci à tous les deux de Framasoft. Et Jean-Luc, t'es pas obligé de partir tout de suite. On peut. Mais on va se faire une petite respiration musicale, cette fois avec un morceau d'Homo Noko qui s'appelle Tired Eyes.
Making my way to you, and it's been all right. You're history this time. You sterilize in your ways and never liberate me. You never liberate me.
Voilà, nous sommes de retour dans le studio pour notre émission, mais on va repartir à La Réunion, ou plutôt on a profité de la venue de Dominique Leperlier en métropole pour l'inviter à cette émission. Même question, Dominique, parce que je t'ai pas du tout présenté depuis tout à l'heure, qui es-tu ?
Bonjour Pascal, je m'appelle Dominique Leperlier, je suis chargé de mission sur le numérique à la ville de Saint-Joseph de La Réunion. Alors, peut-être pour situer géographiquement, parce que de La Réunion on va connaître Saint-Denis ou Saint-Gilles, qui n'est d'ailleurs pas une commune, mais il y en a encore 24 autres communes, dont Saint-Joseph qui se trouve si vous voyez Saint-Denis qui est tout au nord, Saint-Joseph se trouve tout au sud. Et ce qui fait de nous d'ailleurs la commune la plus australe d'Europe. Et des départements français. Voilà. Après nous, c'est les pingouins.
Ok.
Avant mon poste de chargé de mission, j'étais DSI à la ville pendant 17 ans. On a organisé à ce moment-là les rencontres du logiciel libre.
On va s'en parler.
Voilà.
J'avais dit qu'on allait parler du Bertel, mais juste avant, c'est quoi un Bertel ?
Alors, j'ai pas préparé forcément de définition exacte, mais je peux t'en parler parce que effectivement, ça fait partie de notre culture locale. Alors, le Bertel, c'est un cabas qui se porte sur le dos et qui est en la matière, c'est du vaquois qui est tressé, très utilisé il y a plusieurs dizaines d'années, parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus rare, ça reste plutôt un sac qui est plutôt, je dirais, touristique, où les gens vont plutôt l'acheter pour comme souvenir. C'est de moins en moins utilisé, malheureusement, à La Réunion. Il y a aussi quelques Gaulois qui continuent à l'utiliser, parce qu'on parlait de Gaulois tout à l'heure, mais voilà, où on mettait un peu de tout dedans, c'était un fourre-tout en fait. Donc le Bertel, je pense que le terme Bertel, d'ailleurs, je crois que c'est toi qui l'a... Le Bertel numérique.
Enfin, c'est vous qui l'avez appris. Alors, voilà. On va y venir au Bertel numérique. Alors, je sais qu'Isabelle Bertil est en ligne parce qu'elle elle salue, et on a un Comélan à Bertel plastique.
Ah.
Voilà, donc le Bertel, effectivement, c'est ce sac. Quand tu parlais tout à l'heure des rencontres mondiales, alors effectivement, j'ai passé une période de ma vie sur l'île de La Réunion et on avait la chance, parce que tu n'en as pas parlé de l'intérêt de la ville de Saint-Joseph pour le libre. Il se trouve qu'on menait des ateliers autour du numérique et en complément déjà de ce que faisait Framasoft, on essayait de sensibiliser au libre. Et on avait décidé, les copains de La Réunion étaient venus à plusieurs reprises participer et assister aux rencontres mondiales du logiciel libre qui se déroulent traditionnellement en métropole ou en Europe. Et on s'était fait le pari de se dire, puisqu'on ne peut pas tous y aller, autant les organiser là-bas sur l'île. Et puis il a fallu trouver des partenaires pour organiser ça. Et je te laisse raconter.
Oui, effectivement, donc c'était Daniel et Isabelle qui nous avaient contactés à l'époque parce que à la ville de Saint-Joseph, il y avait un choix politique fort qui avait été fait par le maire. et donc qui consistait donc à se réapproprier son système d'information par notamment la mise en place d'outils libres au sein de la mairie et des services communaux. C'est un acte fort parce que tout part de là, c'est une note de service signée du maire donc, qui a préconisé donc, quand on le peut, quand on a les compétences, d'orienter notre système d'information vers l'usage des logiciels libres. Donc ça c'était véritablement, enfin pour moi si vous voulez, c'était un passeport qui nous permettait effectivement de mettre des actions en place. Et notamment, bon, je crois que le projet, je dirais, alors qui est le moins compliqué techniquement, mais qui est le plus difficile à organiser au niveau, enfin en tout cas, où ça demande au niveau de l'organisation quelque chose de déjà beaucoup plus compliqué, c'était donc la migration de la suite Microsoft Office et du serveur Exchange de messagerie, le serveur de messagerie Exchange vers du libre. Donc on est passé, je crois, alors je ne sais plus, ça doit remonter maintenant au moins une douzaine ou une quinzaine d'années, hein. On est passé donc de Microsoft Office à LibreOffice, enfin, à l'époque OpenOffice, et donc de Microsoft Exchange, donc c'est notre serveur de messagerie vers Zimbra. Donc ça, c'était une première étape qui n'était pas forcément la plus facile, notamment sur la partie bureautique, parce que ça nécessitait pour nous une transformation complète au niveau des services communaux, des remplacements de logiciels, tout ce qui va avec. Et on en a profité d'ailleurs, parce que c'était assez marrant, parce que c'est grâce à Microsoft qu'on l'a fait au bout du compte. Parce que c'était en 2007, voilà, je crois que c'était ça, ou 2007, il y a eu le passage de Microsoft 2002 à 2007, il y a une nouvelle interface. Je crois que c'était la version 2007 de Microsoft, il me semble. C'est ça, oui.
Je suis pas très compétent.
Ouais, bon. Il y a une nouvelle interface. C'est 2007. Oui, bon. Donc, la nouvelle interface qui nécessitait pour nous. Enfin, il y a une révolution au niveau de l'interface graphique de la suite Microsoft. Donc on s'est vraiment posé la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire, et au bout du compte, plutôt que d'aller repayer de la formation à l'usage de Microsoft, de cette nouvelle suite, on a décidé de passer à OpenOffice, qui était l'interface graphique quasiment identique donc à la version précédente de la suite bureautique. Donc c'est quelque part grâce à Microsoft qu'on a réussi à faire ce pas. Et donc, on a organisé des sessions de ce qu'on a appelé, nous, de transition, de demi-journée, sur des fonctionnalités les plus simples, en tout cas les plus courantes. Et les gens, quand ils sortaient de cette session de transition, arrivaient à leur poste avec Microsoft, avec LibreOffice installé sur leur poste. Voilà.
Voilà. Et donc, Daniel et Isabelle... J'en reviens à l'histoire des rencontres. T'ont contacté pour
poursuivre.
Alors c'était un pari un peu dingue, parce que non seulement elles étaient décentralisées, mais elles étaient tout en bas de la réunion.
Oui, alors la première réflexion de Pascal, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas trouvé plus près que Saint-Denis? Alors c'est pour ça que j'ai parlé de Saint-Denis d'abord, et de Saint-Gilles, parce que bon, en général, les touristes connaissent Saint-Gilles. Mais effectivement, la première réflexion de Pascal, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas trouvé plus près? Donc... c'était un peu offensant, je l'ai un peu mal pris, mais au bout du compte, on est resté amis, donc...
et donc, les CMEA en partenariat très fort avec la ville de Saint-Joseph, qui nous mettait à disposition et un gymnase et énormément de personnes pour nous accompagner. On a donc organisé ces rencontres mondiales décentralisées en 2011, 2013, 2016, chaque fois avec la présence de Framasoft et de Jean Perratou et d'autres. Donc il y a beaucoup de gens qui sont venus. On a accueilli en moyenne 2000 personnes pendant ces journées-là. Et on en revient au Bertel, c'est dans ces moments-là, et notamment sur l'édition 2013, qu'on avait organisé des ateliers,
des parcours,
oui, pour les associations, avec dans l'idée Ben, on va vous montrer qu'il est possible d'utiliser d'autres outils que ceux que vous utilisez en ce moment et qui posent quand même 2-3 problèmes en termes de confidentialité ou rien que le fait qu'il soit propriétaire. Ça avait eu pas mal de succès, ces parcours-là. On s'était rendu compte, Pierre-Yves Gosset faisait partie de l'aventure des ateliers, qu'on perdait Donc les gens trouvaient ça très très intéressant et effectivement trouvaient les logiciels extrêmement pertinents. Et puis on les perdait à la fin quand ils nous demandaient « Ok, alors comment je fais pour l'installer ?» Bah, il faut une base de données, il faut que ça... Voilà. Ok, perdu. Et là, ça devenait très compliqué. C'est dans ce moment-là que Framasoft a lancé des googlisons qui visaient à rendre disponibles ces services sans qu'on ait besoin de les installer. Ce qui a rendu de grands services. Et puis je suis heureux de vous dire aussi, Framasoft, que on a beaucoup utilisé vos services, mais maintenant on les a installés chez nous et on libère vos serveurs, puisque c'est bien ça l'idée. Et puis nous, on avait continué à réfléchir à la réunion sur comment on peut s'y prendre pour aider les associations. Et c'est comme ça qu'était née l'idée d'un Bertel numérique, en se disant il faudrait que les assos elles puissent avoir leur petit panier tressé en vaquois avec tous les outils numériques dont elles peuvent avoir besoin. Ça porte un nom maintenant parce que les CMA nationaux s'en sont aussi emparés, puisqu'on réfléchissait à ça nationalement. Ça porte aussi un nom réunionnais, Zurit. La pieuvre, tout simplement parce qu'on a pris les logiciels qui nous intéressaient, les logiciels libres qui nous intéressaient, que ce soit Zimbra, que ce soit Netcloud et autres.
Je pense qu'il y a une chose importante qui a signalé, parce que Zurit a été faite donc par une société qui se trouve à Saint-Joseph.
Tout à fait.
Je pense que c'est important aussi de souligner, et on fait un petit signe à Jean-Noël.
Tout à fait. Voilà. Et donc voilà, la tête de la pieuvre étant ce qui a été construit pour que ça puisse communiquer avec tout ça, et ça équipe maintenant la plupart des associations territoriales des CMEA. Et on en est à un point, c'est évidemment développé sous licence GPL, sous licence libre, donc tout le monde peut s'en emparer, sauf que c'est pas un outil qu'on installe très facilement. Et là, on s'est dit récemment... Au CMEA qu'on allait essayer d'accompagner les associations à pouvoir profiter et utiliser cet outil-là. Et forcément, comme ça démarre toujours à Saint-Joseph, on revient à Saint-Joseph dans un projet qui est en train d'être travaillé avec vous, qui pour le coup s'appelle, on est revenu à la première appellation, du Bertel. Je te laisse en dire un mot, Dominique.
Oui, enfin, ce qu'on a remarqué effectivement, enfin moi j'ai une anecdote qui me marque particulièrement, en plus c'est toi qui me l'as raconté, Pascal, c'est cette dame qui était venue avec son ordinateur, je crois que c'était à la deuxième ou la troisième peut-être édition de la version décentralisée des logiciels libres, et qui a découvert un ensemble de logiciels qui pour le coup en plus ne lui coûtait pas grand chose, donc ça tombait très bien aussi, mais je crois que l'idée n'était pas forcément celle-là, mais c'est une anecdote importante parce que c'est là où on s'est rendu compte aussi que bon, effectivement le parcours on l'a fait parce qu'on a voulu un peu donner un sens, la première édition était une émission un peu de vulgarisation du libre et les deux autres éditions ont vraiment donné un sens, en tout cas une orientation à ces deux éditions et cette anecdote est importante parce que là on s'est rendu compte qu'effectivement il y a un besoin réel des associations d'utiliser des outils et pourquoi pas à ce moment-là leur donner des outils qui sont libres. Et après, on est souvent face à des défis technologiques pour ces personnes-là. Et c'est là qu'effectivement intervient ce projet de Bertel numérique. Pour nous, au niveau de la commune, je crois que c'est important parce que les associations... On les finance, enfin, il y a des subventions qui sont versées aux associations. Et je pense que pour une fois, on est capable de financer un service. Et on donne un sens, en fait, à ce qu'on fait. L'objectif, nous, dans un premier temps, c'est d'avoir une phase expérimentale sur une quinzaine d'associations, voir comment ça marche. On a fait le choix donc de sélectionner d'abord des associations qui ne sont pas forcément des très grosses associations, hein, qui sont en général bien équipées. L'idée, c'est vraiment d'aller prendre les petites associations qui sont demandeurs. On a des associations qui nous demandent du matériel informatique. Donc pour le coup, on s'est dit, tiens, c'est peut-être aussi une aubaine, justement, de proposer ce service. Et avec donc le projet de Bertel Numérique, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on récupère aussi du matériel communal, enfin qui a fait l'objet d'un remplacement annuel qu'on fait annuellement dans le parc informatique, qu'on va rééquiper donc en logiciel, en système libre, évidemment. Bon, je pense que ce sera quelque chose comme Ubuntu. Voilà, je parlerai pas forcément à la place de Florent qui m'a succédé à la DSI, mais bon, clairement, de toute façon, ça sera du système libre qui sera sur ces machines. Et donc, en plus donc effectivement du Bertel numérique, on leur met à disposition un ordinateur de manière à ce qu'ils puissent l'utiliser et qu'ils aient les moyens d'utiliser, parce que effectivement, si on donne le service, mais s'ils n'ont pas les ordinateurs pour pouvoir le faire, ça n'a pas de sens au bout du compte. Donc voilà, il y a véritablement une volonté pour nous, au-delà de donner, enfin, je pense que le maire, c'est ce qu'il a vu à travers cette action-là, sachant que, bon, ça reste encore à l'étape de projet chez nous. C'est important de le dire, parce que ça doit passer au conseil municipal. En théorie, au mois d'avril, ça reste encore là aussi à être validé. Le conseil municipal reste quand même un organe de délibération, d'accord, et qui va voter donc une affaire qui passe au conseil municipal. Cette étape-là, elle est essentielle. Donc pour l'instant, je dirais que je parlerai encore au conditionnel sur ce projet-là, même si on a bon espoir que ça puisse effectivement se faire.
Ce qui pour nous est intéressant dans ce projet-là, et puis on espère bien après les CMEA ailleurs, c'est, enfin, ça fait sens avec ce que sont les CMEA, dans le sens où on s'est construit notre outil parce qu'on en avait besoin, il est disponible, on peut le proposer, on ne va pas devenir hébergeur de toutes les associations du monde. Il y a des chatons pour ça et on va forcément avoir recours aux chatons. Et ce que proposent les CMEA, c'est d'accompagner les associations dans le chemin qu'on a fait, nous, dans la compréhension de pourquoi il fallait qu'on lâche des adresses Gmail ou des drives et autres, et qu'on ait nos propres outils. Et puis, à s'approprier Zurit tel qu'on l'a pensé, parce qu'il est... il est extrêmement modulable, il peut s'adapter à tous les besoins d'associations. Donc en fait, notre boulot, ça va être ça. On s'appuie encore un peu là, pour le coup, sur Jean-Noël et des chatons, avec dans l'idée, en tout cas c'est ce qu'on dit aux associations qu'on rencontre et auxquelles, avec lesquelles on envisage de travailler, c'est que notre idée, c'est que dès qu'on peut, on s'en va et elles se débrouillent sans nous. Parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Jean-Luc, tu voulais intervenir?
Oui, parce que...
Attends, il faut qu'on ouvre ton micro.
Oui, donc tu viens d'évoquer la pertinence, ou en tout cas l'intérêt porté par les CMEA. Moi, je voulais souligner quand même ce que tu disais sur le sens politique du choix opéré par la collectivité locale. Parce que je trouve qu'il y a, dans le rapport aux associations, effectivement, et dans la façon de pouvoir situer le financement du service, comme tu l'as si bien dit. Moi, je trouve que c'est, du coup, complètement pertinent, cette collaboration entre collectivités, associés du POP implantés sur le territoire, et puis le lien qu'on opère sur la géographie auprès du monde associatif local, quoi. Et ça, je trouve que pour une collectivité, en termes de dimension, de vision politique, de ce que peut être aussi un projet d'une équipe d'élus, moi, je trouve ça assez remarquable, parce que c'est une façon de penser la relation au territoire plutôt en soutien de ce que l'on sait être nécessaire, répondant à des besoins au service de développement, plus que dans le rapport économique dont on mesure à la fois, bien sûr, la pertinence, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais aussi les limites par endroit. Et donc, moi, je trouve que cette sensibilité politique, en plus adossée à l'histoire que tu viens de résumer sur les choix opérés il y a de nombreuses années, je trouve ça assez remarquable.
Juste une chose peut-être pour compléter, je pense qu'on ne l'a pas précisé, mais dans le Bertel numérique, il y a un ensemble de logiciels. Tu as cité notamment le cloud, mail, etc. Mais il y a une chose qui est importante, et c'est ça que aussi les associations sont demandeurs, parce qu'aujourd'hui, leur problématique, c'est de pouvoir avoir une gestion aussi bien comptable qu'une gestion des adhérents. Et le Bertel numérique... Oui. Propose ces deux solutions.
On a intégré Garadine.
Voilà. Et donc, c'est vraiment important de le préciser parce que, véritablement, là, on donne du contenu à la plateforme.
Merci beaucoup, Dominique, pour être venu jusque-là nous présenter le projet.
Merci de m'avoir invité. Donc, bon, je pense que ça aurait été bien que d'autres soient là parce qu'effectivement, et je suis content d'ailleurs que les CMR Réunion, qu'on travaille de nouveau avec les CMR Réunion sur ce projet. Et voilà. Merci à toi.
Merci. Cette émission qui devait durer une heure a duré pas loin d'une heure et demie. Il nous reste à vous dire que... On s'était dit qu'on ferait un petit point aussi de ce qui se passe dans nos actions et dans le réseau pour dans les jours et semaines à venir. On sera, encore une fois, pas loin de Framasoft aux journées du logiciel libre à Lyon les 6 et 7 avril. Il y aura un stand de la mission libre CMA et on y anime aussi une conférence débat sur le thème « On n'aurait pas loupé un truc » qui s'adresse aux associations d'éducation populaire et aux associations libristes, parce qu'on reste assez convaincu que ça fait quand même un long moment qu'on devrait se parler plus qu'on ne se parle. Le 9 avril, Jean-Luc, tu l'évoquais, on sera à la Maison de l'Europe pour animer un débat autour de l'Europe et du numérique. Les week-ends du 18 et 19 mai à Caen et à Nantes, il y a une formation nationale qui est proposée aux militants autour des libertés numériques. Et puis, comme on parle de Nantes, c'est déjà commencé, il suffit de taper « printemps du 102 » sur Internet. Il y a énormément d'actions qui sont menées, et pas seulement autour du numérique, mais beaucoup autour du numérique. Et puis cette semaine qui précède le week-end du 18-19 mai sera une semaine dite des libertés numériques. Bon, voilà, ça c'était pour les quelques moments à venir. Il nous reste aussi... Alors, on a eu plein de propositions sur le pad de titres d'émission. On va étudier ça et puis on va voir comment, démocratiquement ou non, on décidera du titre de cette émission. Vous dire aussi que, comme on l'a dit tout à l'heure, on mettra les titres des morceaux qui sont passés sur la page web, que le générique que vous allez bientôt entendre... Et c'est un morceau de Kinematic, un groupe australien, et le morceau s'appelle David Jones, que vous retrouverez le podcast de l'émission sur radio.cma.org/mlen, et que la prochaine émission aura lieu le mercredi 23 avril. En fait, on va essayer de faire une émission mensuelle chaque fin de mois, chaque dernier mercredi du mois, donc le prochain étant mercredi 23 avril. Je vous remercie tous et toutes d'être venus. On remercie Max Belvisé parce que c'était une émission publique. Max passait par ici et il est venu nous encourager. Et puis merci à tous les auditeurs et auditrices et au mois prochain. We'll be right back.
does he seem to make you cry?